Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction, bien sûr avec vous, mais aussi avec notre invité. Alors en librairie, il a signé un roman à l'époque sur Al Capone. Eh oui, un autre sur une jeune femme adolescente qui mangeait, tiens-vous bien, des cornichons au chocolat. Ou plus récemment un livre, on va dire un peu plus intime, sur l'introspection. J'irai nager dans plus de rivières. C'était en fin d'année dernière. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que les livres. Au cinéma, il a réalisé Rive droite, rive gauche, ou encore L'héritier avec Bebel, hein, Jean-Paul Belmondo, rien que ça. Dans les bacs aussi, hein, de la musique, il a écrit des chansons pour Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, sans oublier qu'il a été un patron des médias en France. Hein, il a notamment été le patron de RTL et il a lancé également avec Vincent Bolloré la chaîne Direct 8, aujourd'hui C8. Et s'il vient nous voir sur ce plateau ce matin, c'est parce qu'il a envie de mettre en lumière un univers qui, malheureusement, en effet, ces derniers mois, est resté un peu trop souvent dans l'ombre. Hein, Philippe Labro, bonjour, bienvenue bonjour. Dans le Buzz Télé. Votre nouvelle émission, hein, c'est ce dimanche, hebdomadaire, hein, L'essentiel chez Labro, hein, c'est son titre. Ouais. Un magazine au cours duquel vous recevrez plusieurs artistes du monde de l'univers de la culture au sens large. À travers ce titre, hein, je le rappelle, L'essentiel chez Labro, c'est quoi? Il y a un petit pic à l'égard du gouvernement, de l'exécutif, sur le fait que la culture, malheureusement, elle a été mise sous terre, étouffée pendant des mois.
C'est un adjectif qui, tout d'un coup, est apparu comme ça. Hein.
Essentiel?
Oui. C'était ce qui était essentiel, ce qui ne l'était pas. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, d'une certaine manière, la culture n'était pas vraiment essentielle. Si, les livres ont été sauvés, Dieu merci. Mais cinéma fermé, théâtre fermé, concert fermé, il y a quand même un manque extraordinaire. Donc je me suis dit, oui, pourquoi pas appeler ça l'essentiel. Chez Labro, c'est la chaîne qui l'a voulu, parce que moi je trouve que c'est un peu gros.
Hein, c'est une marque de fabrique.
Oui, mais je ne parle pas de moi à la troisième personne. Vous ne me voyez pas dire, bienvenue chez Labro. Donc pour moi, c'est bienvenue à l'essentiel. Mais derrière, dans le décor, effectivement, il y a un gros logo chez Labro.
Alors vous-même, je crois que vous avez écrit, je parlais de votre dernier, mais quoi, il y a une vingtaine de livres au total aujourd'hui?
25.
25 livres. Quand vous avez appris que les libraires et les rayons de livres étaient fermés, notamment dans les supermarchés en octobre dernier, vous avez bondi, vous avez réagi comment?
J'étais désespéré. Ouais. Oui, parce que mon livre venait de sortir. J'irai nager dans plus de rivières est sorti chez Gallimard en octobre. Et je crois que la fermeture s'est arrivée pratiquement 3 semaines après. Or, il avait bien démarré, donc j'étais très heureux. Et boum, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Mais c'était pas seulement l'égoïsme de l'écrivain, c'était pour l'ensemble de la profession, pour cette chose indispensable pour le français qui est le livre. Hein. La lecture, c'est capital, on est un pays littéraire qui aime les livres. Donc j'ai pensé que c'était une erreur majeure, en partie due d'ailleurs à un syndicat de libraires qui était très timide au début. Enfin bref, ça s'est arrangé, on a réouvert les librairies, c'est le seul lieu essentiel de culture qui a vécu tous les confinements.
Plus que le cinéma, vous pensez?
Oh non, le cinéma, c'est capital aussi. Hein. Il y a quand même 200 millions de Français qui, chaque année, vont au cinéma. 200 millions. Hein. Donc, et puis c'est un art, c'est le 7e art. Et il nous a tous fait rêver, il nous fait encore rêver. Mais je crois que la civilisation française repose sur le mot, sur l'écrit, sur les essais, sur les romans. Hein. Nous sommes les enfants de Balzac,
sur
Flaubert,
la poésie aussi.
Hugo, ou la poésie. Nous chantons tous quelques vers d'Aragon ou d'Apollinaire, voilà. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de faire comprendre et faire aimer aux spectateurs.
On va en reparler, nous sommes en direct avec Philippe Labro sur Figaro Live, je rappelle sur le figaro.fr également, la page YouTube, c'est nouveau de TV Magazine. Mais que pensez-vous justement, on en parle avec Philippe Labro, de la place de la culture à la télévision? Est-ce que vous avez suivi également la carrière de Philippe Labro dans l'ensemble des médias, écrivain, réalisateur, écrivain également pour des chanteurs connus en France? Est-ce que vous aimiez également Langue de bois s'abstenir, qui s'est arrêté, puisqu'il y a une nouvelle émission aujourd'hui? Est-ce que vous aimeriez également voir Philippe Labro dans d'autres exercices à la télévision? Dites-nous tout. Et en attendant, on retrouve Damien Canivez pour les news médias du jour. Bonjour Damien.
Bonjour Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour Damien.
Voilà. Beaucoup de Philippe sur ce plateau aujourd'hui.
Alors on commence Philippe Labro de manière traditionnelle par les audiences de la télé de la veille.
Ah oui, alors cramponnez-vous à votre fauteuil si vous êtes confortablement installé chez vous, parce que je ne suis pas certain que vous soyez prêt à entendre ce que je vais vous annoncer. HPI, la série diffusée sur TF1, a dépassé les 10 millions de téléspectateurs hier. C'est une audience historique pour la première chaîne de France. 42,3% de part d'audience sur la cible commerciale. La fameuse femme responsable des achats de moins de 50 ans, on est au-dessus des 48%. C'est incroyable, à titre de comparaison, la dernière fois que TF1 a atteint de tels niveaux, c'était en 2007 sur un épisode de Joséphine Ange Gardien, vous vous rendez compte. Alors évidemment, face à ce score, toutes les autres chaînes ramassent les miettes. France 3 rediffusait une comédie intitulée Potiche, hein, signée François Ozon, là cette fois-ci sous la barre des 2 millions de téléspectateurs. M6 sur la troisième marche du podium misait sur un film intitulé Cendrillon, 1,6 million de cinéphiles, 6,6% de part d'audience. Et l'une des victimes collatérales de ce fabuleux score de TF1, c'est France 2 qui l'assigne, il faut le dire, un échec, hein, moins de 900 000 téléspectateurs devant le documentaire intitulé Bruxelles, ton univers impitoyable.
Audrey Fleurot a tué l'Europe. Donc,
ah ouais. c'est vrai. Voilà, on peut résumer ça comme ça.
C'est un score de finale de Coupe du Monde.
Hein. Ah oui, clairement. Ouais,
c'est ou vrai. De demi-finale.
Ouais. Vous avez participé, j'ai dit tout à l'heure, à un lancement de Direct 8, aujourd'hui devenu C8. Est-ce que vous êtes fier d'une certaine manière de ce qu'est devenu la chaîne et de son ambassadeur, Cyril Hanouna, qui est omniprésent?
Ben, C8 a sa particularité, sa singularité, sa personnalité. Qu'est-ce qui compte? C'est de ne pas faire comme les autres, c'est d'être différent, d'être original. Et puis, effectivement, d'aller dans beaucoup de directions. Il y a Cyril Hanouna, mais il n'y a pas que ça sur C8. Hein. Il y a d'ailleurs, C8 est en train d'observer, d'opérer un tournant. On va revenir à des émissions sur la maison, sur la cuisine, sur la vie quotidienne et sur la culture. Non, non, c'est très bien, ça se passe très bien. C'est mon enfant, c'est notre enfant. Pas le seul, hein. On était plusieurs autour de la table. Hein. On avait du papier blanc et rien, et un stylo, et un petit peu de gamberge.
À l'époque, c'était donc Direct 8. Ouais. On poursuit ces infos médias avec les émissions que va programmer TF1 à l'occasion du prochain Euro.
Exactement, Philippe. Alors hier, nous vous avons dévoilé le dispositif qu'M6 déploiera lors de cette compétition européenne qui se tiendra du 11 juin au 11 juillet prochain. Et comme cette chaîne partage les droits de retransmission avec TF1, donc de l'Euro 2020, je vais évidemment maintenant vous parler du dispositif que la Une a l'intention d'installer. Alors déjà, 12 rencontres seront retransmises en direct, dont le match d'ouverture opposant la Turquie à l'Italie. Le duo de commentateurs phare reste le même. Le journaliste Grégoire Margoton sera associé à Bichente Lizarazu. Avec ceci dit, une petite nouveauté. Cette fois-ci, l'arrivée d'un duo inédit composé du journaliste Julien Brun et de Sabrina Delannoy, qui est une femme. Hein, c'est assez rare pour le souligner. Et après les rencontres, enfin, c'est tellement rare. Quoi qu'il y en a aussi sur la chaîne L'Équipe, par exemple, Candice Roland, dont on parle beaucoup. Et après les rencontres, cette fois-ci, c'est Denis Brognard qui animera un magazine intitulé Le Mac de l'Euro pour revenir sur les exploits des uns et des autres, en compagnie cette fois-ci de spécialistes comme Youri Djorkaeff ou encore Nathalie Yaneta. Le magazine Téléfoot, que l'on connaît bien, qui est diffusé actuellement chaque dimanche sur TF1, va délocaliser son plateau, tantôt à Clairefontaine, tantôt au camp de base des Bleus, situé à Budapest. Et deux programmes courts s'inviteront également sur la grille. Le premier intitulé Le Rendez-vous Sport en Bleu et le Journal de l'Euro, qui sera diffusé sur les trois chaînes du groupe TF1, TFX et TMC.
Un vaste programme. Donc on va manger du foot en effet avec l'Euro. Vous serez de la partie, Philippe
Labreau. Oui, mais attendez, on en mange toute l'année, mes enfants.
C'est vrai, exactement.
Mais bien le foot à la télé?
J'aime le sport.
Vous aimez le sport?
Quel qu'il soit. Je suis d'abord et avant tout rugbyphile.
Ah.
J'ai joué au rugby, c'est mon pays natal, le Tarn-et-Garonne, le Sud-Ouest, et je trouve que c'est un sport extraordinaire. Mais j'aime aussi beaucoup le foot, le tennis, tous les sports.
C'est dit. Allez, on termine ces news médias par une information dite croustillante que le Monde a révélée hier dans la journée.
Effectivement, la journaliste Ariane Chemin du Monde a signé hier un article dans lequel elle s'intéresse aux relations qu'entretient Pascal Praud avec le pouvoir politique. Alors déjà, en mars dernier, le journaliste débriefe la conférence de presse de Jean Castex. Vous savez, c'était dans son talk show L'Heure des Pros, diffusé chaque jour sur CNews. Le Premier ministre venait de dévoiler les nouvelles mesures de confinement dans plusieurs départements et Pascal Praud a estimé que les gens ne pigeaient rien et ajouter, je le cite, que le type qui a inventé une attestation pour sortir de chez lui, il faut le pendre, précisant évidemment au passage qu'il s'agissait d'un propos au second degré, mais qui n'a pas manqué, ceci dit, de faire réagir le chef du gouvernement, la directrice de la communication de Jean Castex en premier lieu, qui a convié Pascal Praud dans les locaux du Premier ministre afin de prendre un café qui, selon nos confrères du Monde, a duré deux heures. Dans cet article, il est aussi question d'un dîner à l'Élysée que Pascal Praud aurait partagé avec plusieurs conseillers, mais le plus cocasse, en tout cas l'anecdote la plus cocasse dans cette histoire, c'est autour d'un SMS que Pascal Praud reçoit un jour en direct et qu'il le lit, comme il a coutume de le faire lors de son émission. Sibeth Ndiaye, donc, qui à l'époque faisait partie de l'équipe de l'Élysée, demande à ses conseillers réunis autour du chef de l'État, je la cite, « Quel est l'imbécile qui a envoyé un SMS à Pascal Praud au sujet de la prime des 100 euros promises chaque mois aux travailleurs qui étaient payés au SMIC ?» Et à ce moment-là, il y a une personne qui se retourne pour se dénoncer, et devinez qui c'est Emmanuel Macron, lui-même, en personne.
Il dit, la machine, c'est moi.
Ouais, exactement.
Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez plusieurs, on peut dire plusieurs métiers, plusieurs vies. Philippe Labreau, est-ce que vous avez l'occasion, justement, au cours de cette carrière, de croiser les grandes ce monde, chefs de l'État, notamment certains chefs d'État en France, j'imagine?
Ben forcément, quand vous dirigez ce que j'ai fait pendant 15 ans, la première radio de France, RTL, je recevais, oui, tout le monde. J'ai vu passer, Mitterrand, Giscard, Sarkozy,
Chirac, bien sûr.
Je recevais sur le haut des marches. Il aimait ça, d'ailleurs. Il était très, très content qu'on soit là. Et évidemment, Hollande et Macron, oui. J'ai dû voir passer à peu près 6 présidents.
Ouais. Et la personnalité que vous avez le plus marquée, justement, politique?
C'est pas forcément un président. J'ai été très impressionné par le cardinal Lustiger. Jean-Marie Lustiger, c'est un homme d'une grande intelligence, une grande discipline, une grande culture. Mais enfin, il n'y a pas que lui. Effectivement, ils sont tous intéressants. Impressionnant n'est pas le terme. Il ne faut pas être impressionné quand on est journaliste. Jamais. Mais ils sont intéressants, ils sont passionnants. Ce sont aussi des hommes, hein, faut bien voir. Ils ont des qualités très diverses. Ils ont leurs petits défauts, leurs petits tics. Et ils sont très sensibles. Hein. Et encore une fois, je vous parlais de la sensibilité. Je me souviens toujours de la manière... Il n'était pas, à l'époque, au pouvoir. Quand Chirac était, rappelez-vous, en campagne contre Balladur. Et Balladur était largement devant lui. Et d'ailleurs, il était presque abandonné par les siens, rappelez-vous. Sarkozy l'avait abandonné. Tout. Seul Juppé lui était fidèle. Et moi, je le reçois un matin, vers 7h, sur les marches de la rue Bayard, RTL. Le
siège d'RTL.
Oui. Il arrive tout seul avec Claude Chirac, laquelle, vous avez vu d'ailleurs, est en train d'entrer dans la politique en Corrèze. Et il s'est émerveillé que le patron de ce média soit là pour le recevoir. Je lui ai dit, c'est la moindre des choses. Donc là-dessus, il est reparti, on a bavardé. Et lorsque plus tard, finalement, renversement de situation, Balladur est battu, Chirac est élu, eh ben, il fait un grand déjeuner à l'Élysée, il nous invite, les grands patrons de presse, il me met à sa droite et il dit, pour tous les autres, eh ben voilà quelqu'un qui, lui, quand ça n'allait pas bien, le matin sous la pluie, il savait recevoir les gens. C'est du Chirac.
C'est du Chirac,
ouais. Ah ben j'ai beaucoup aimé Chirac, oui.
Merci Damien pour ces news médias et je vous propose, Philippe Labreau, tout de suite, qu'on passe à l'interview du Buzz Télé avec vous.
Très bien.
Place à la télé, l'essentiel chez Labreau, hein, je rappelle, c'est le titre du nouveau magazine culturel que vous lancez ce dimanche à 23h sur la chaîne C8. Alors certains vont dire que c'est peut-être un peu tard. Est-ce que la majorité des Français, évidemment, doivent retravailler tôt le lendemain? Qu'est-ce qui devrait pousser les Français à veiller pour suivre votre émission? Le principal motif?
La curiosité.
La curiosité.
Le fait qu'ils viennent de voir un très bon film. Parce que n'oubliez pas que c'est le dimanche soir.
Après le
film. Et que sur C8, il y a à 21h la séance du dimanche soir que j'annonce, que je présente, et on cherche toujours, et propose des grands films du patrimoine français, du Claude Sautet, du Gilles Grangier, du Tavernier, du Gabin, du Fernandel, du Belmondo, et ça marche très très bien. Donc j'espère que les gens qui ont regardé les grands films restent fidèles à la chaîne, et enchaîneront, si j'ose dire, avec l'essentiel. Mais c'est évident que c'est vers 23h, 23h05, soyons modestes, je ne m'attends pas aux 10 millions de Mme Fleurot.
Hein. cette émission peut nous faire penser à celle de Laurent Ruquier, hein, avec vous êtes en direct, il présente chaque samedi sur France 2 également en deuxième partie de soirée. Il reçoit également des artistes du monde de la culture. En quoi le concept de votre émission est-il si singulier, si différent?
Alors d'abord, encore une fois, je suis modeste, ce n'est pas si singulier que ça, simplement. C'est ma subjectivité, c'est-à-dire j'apporte...
C'est votre regard.
Oui, j'apporte... ce que vous aviez la gentillesse de mentionner, c'est-à-dire mon expérience de romancier, de cinéaste, de patron de presse, de parolier, de musicologue, de mélomane, moi j'adore la musique. Et puis, chez Ruquier, oui, il y a de la culture, c'est sûr, mais il lui fait aussi très souvent le loisir d'inviter des hommes politiques, hein, ou des éditorialistes. Et là, ça sera uniquement la culture, on ne parlera pas de politique, on parlera du reste. La création, le bonheur d'être, le bonheur de s'exprimer, les publics, les surprises.
Damien, une première question, oui, ou réaction pour Philippe Labro.
Nous sommes en direct sur le Figaro.fr et sur la page YouTube de TV Magazine, effectivement, nouvelle plateforme sur laquelle on est. Et on a une question de Thibaut qui rejoint d'ailleurs celle de Nicolas, qui, et c'est marrant parce qu'on en parlait juste avant cette interview. Est-ce que vous pensez que les Césars ont rendu service au cinéma? Voilà, une question qu'on a envie de vous poser.
Ils n'ont pas rendu service au cinéma du tout.
Du tout.
Ils ont fait un mal fou au cinéma français, à l'image du cinéma français. Il n'empêche qu'il y a des tas de films qui arrivent, le cinéma ça existe, il y a des metteurs en scène, il y a des comédiens, il y a de la création, il y a beaucoup de talent en France. Mais cette soirée-là, et les gens qui l'ont écrite, qui l'ont organisée, c'était tout simplement honteux. C'était humiliant.
Qu'est-ce qui vous a choqué, en fait, dans cette...
Mais tout, la vulgarité, l'agressivité, la répétitivité, l'humiliation. Il y a un moment donné où la présentatrice, dont je préfère pas citer le nom, a pratiquement obligé Nathalie Baye, qui est une grande comédienne, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'amitié, à dire qu'elle était une comédienne de merde. C'est humiliant, c'est pas possible. Alors, c'est d'autant plus dommage que cette soirée n'était pas si mauvaise que ça, parce qu'il y avait Biolay, qui était très bon, il y avait un bon orchestre, il y avait 3-4 moments assez forts, les hommages étaient très bien faits aux disparus, Claude Brasseur, Dabadi, Piccoli, tout le cinéma français a perdu depuis un an, Bedos. Donc, c'était inégal, mais la partie revendicative était humiliante, honteuse, vulgaire et inutile.
Et vous faites allusion à Corinne Maziero qui s'est totalement dévêtue sur la scène des Césars.
C'est grotesque, grotesque.
Alors, on reste dans le cinéma.
J'espère que ça n'aura pas lieu une nouvelle fois, hein,
ouais,
quand même.
Croise les doigts,
oui. On reste dans le cinéma, puisque vous allez recevoir parmi vos invités, hein, dimanche soir, dans votre nouvelle émission, le magazine, Thierry Frémaux, le directeur du Festival de Cannes, qui sort un livre sur le judo.
Oui.
Vous allez apprendre en exclusivité, donc, du coup, le film d'ouverture de la prochaine cérémonie.
Film d'ouverture de Léos Carax avec Marion Cotillard et dont Thierry Frémaux pour cette émission, pour notre émission, donc la première, donc dimanche, nous a apporté la bande-annonce du film, ça sera le film d'ouverture. Donc Thierry l'a apporté. Et puis Thierry Frémaux, je le connais très bien, c'est un homme qui justement adore et respecte le cinéma et tous les cinémas. Il a écrit ce bouquin, Judoka, qui n'est pas sur le judo, c'est sur sa vie de judoka et comment judoka lui a appris à savoir chuter et se relever, et lui a donné un certain nombre de disciplines. D'ailleurs, on les a un peu énumérées au cours de l'entretien. Et puis Thierry, il a, ce que j'aime chez les gens, une curiosité généraliste, il s'intéresse à tout. Donc on peut, dans une soirée comme celle-là, l'émission, mon ambition à cette émission, c'est qu'on peut faire parler les invités d'autre chose que le produit, si j'ose dire, pour lequel ils sont présents.
Hein. La promotion.
Oui, la promo, ouais, moi, je ne suis pas contre la promotion, tout le monde en fait, j'en ai même fois souvent fait moi-même. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est la personnalité de l'homme ou de la femme, ou des femmes que nous recevons. Et nous terminons d'ailleurs avec une petite note musicale, il y a ça aussi. Hein. Je voudrais à chaque fois apporter...
Une virgule live, comme on dit aujourd'hui.
Un peu plus qu'une virgule. Notre soirée, la première soirée, termine par 5 minutes de Bach au violon, par un très bon violoniste, un jeune violoniste que m'a recommandé mon ami Renaud Capuçon. Il s'appelle David Petrlik. Et qu'est-ce que vous voulez, quand vous terminez avec Bach, vous êtes heureux, quoi.
qu'est-ce qui va guider, justement, le choix de vos invités?
L'éclectisme, la curiosité, un peu d'originalité. Enfin, c'est pas plus original qu'un autre, encore une fois. Il y a beaucoup d'émissions culturelles, faut pas non plus croire qu'on invente quoi que ce soit. Mais des regards, des personnalités. Et puis surtout, par exemple, j'ai un autre invité qu'on n'a pratiquement jamais vu à la télé. C'est un grand chirurgien à la retraite, chirurgien du cœur. Il s'appelle Jean-Noël Fabiani Salmon, un des meilleurs. Il nous a raconté à l'antenne qu'il a opéré 40 000 personnes dans sa vie. Il a ouvert les cœurs de 40 000 personnes. Et c'est un conteur, cet homme. Il écrit des bouquins où il raconte les inventions de la médecine. Qui a inventé le vaccin, comment ça s'est passé, pourquoi Pasteur a repris ça, quel sera l'avenir de la médecine moderne. Il est passionnant. Ça, personne ne l'a vu, ou très peu. Et là, moi, j'ai un compteur autour de notre table, et ça m'intéresse. Et je pense et j'espère que ça intéresse les gens.
Damien.
Allez, on va prendre une question assez large de Vincent sur la page YouTube de TV Magazine. Quel regard portez-vous sur la télévision d'aujourd'hui? C'est vrai qu'elle a beaucoup évolué hein, depuis ouais. Le temps que vous en faites.
La question de votre auditeur est tellement large. La télévision d'aujourd'hui, ouais. C'est les télévisions d'aujourd'hui. Il y a toutes sortes de télévisions. Et donc, il ne faut pas les juger. Il ne faut pas juger la télé globalement. Il faut les prendre les unes après les autres. Moi, mon regard, il est c'est celui d'un curieux, intéressé, qui considère que, bon, il y a des moments un peu trash, des moments un peu nuls, appelons ça comme ça. Moi, pour moi, il y a certains moments, certaines émissions, certains feuilletons que j'aime pas beaucoup, mais dans l'ensemble, vous apprenez quelque chose. Ce qu'il faut, c'est ne pas la subir, il faut choisir la télévision, et on a cette merveilleuse petite chose qui s'appelle la zapette, hein, qui vous permet d'aller l'un à l'autre. Elle est riche, c'est vivant, c'est nourrissant, il ne faut pas non plus s'y soumettre trop, ce n'est pas la peine de regarder ça trop longtemps. Moi, je sais que comme je suis un peu insomniaque, le soir, quand je commence à me balader, si je tombe sur un film américain des années 40 en noir et blanc avec un Frère Bogart, ben, je reste.
Regardez.
un mot peut-être sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la culture, Philippe Labour. Le cinéma vit actuellement un grand danger à cause des adeptes de la cancel culture, hein, un phénomène qui agite les réseaux sociaux et qui vise à dénoncer publiquement, voire à supprimer d'ailleurs parfois des actes que certains jugent inadmissibles. Ça va du déboulonnage des statues à la volonté de réécrire des œuvres littéraires ou cinématographiques actuellement, en passant par le boycott de certains artistes. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance et est-ce que ça peut être un sujet traité justement au sein de votre nouvelle émission ?
Je ne suis pas sûr qu'on le traitera parce que ça débouche sur le politique et je ne veux pas faire du politique du tout dans notre émission. Néanmoins, oui, c'est la culture. Il y a, quand c'est la culture, il y a le mot culture. Mais to cancel, en anglais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire supprimer. Hein ? C'est ce qu'on voit sur les panneaux dans les aéroports. Cancel, ça veut dire annuler. Donc annuler la pensée ou l'opinion de quelqu'un d'autre sous prétexte qu'elle vous offense ou qu'elle n'appartient pas à votre propre culture, c'est inadmissible. Cette cancel culture, je la rejette totalement. Et je pense, et je crois, qu'il va y avoir un cycle contraire. Il y a un certain nombre de gens, comme ça, de penseurs, d'éditorialistes, de comédiens, ce que vous voulez, tout, qui commencent à dire, ben, ça va, ça suffit. Alors en Amérique, ça s'est répandu partout, mais j'espère que dans ce domaine-là, on ne s'américanisera pas trop.
L'exemple de Blanche-Neige, hein, qui est victime d'un baiser non consenti de la part du prince charmant. Il y a deux journalistes, je rappelle, américaines, qui ont proposé à Walt Disney de réécrire le scénario pour inculquer aux enfants des valeurs plus saines. Mais c'est... On vit sur quelle planète, Philippe Labour ?
Écoutez, j'espère ne pas être vulgaire en disant que tout ça, ce sont des cons. Ouais. C'est une connerie majeure. Hein. Mais c'est eux, hein. C'est une minorité. Le problème, ce sont les minorités actives. Parce que je suis convaincu que la majorité du public... L'opinion publique, en France comme ailleurs, n'adhère pas à cette espèce de maccartisme culturel. Parce que c'est ça, c'est du maccartisme. Hein. On impose, on interdit, on empêche, on dénonce la délation. Tout ça est d'une laideur rare. Et... Allez, oublions.
Mais vous ne le traiterez pas, vous disiez, parce que c'est un sujet trop politique.
Je peux le traiter.
Vous donnez la parole à certains artistes qui viendraient justement défendre...
Oui, mais encore une fois, ce n'est pas une émission de débat politique ou de débat... Si, il y a du débat, mais il sera culturel. Ce qui m'intéresse, c'est quand j'ai un ou une invité en face de moi, c'est pourquoi et comment il a écrit ce livre, qu'est-ce qu'il y a dedans, d'où ça vient, quelle a été son enfance, quels ont été ses maîtres, quel est son livre de chevet, c'est ça qui m'intéresse.
Damien, une question.
Oui, alors on salue Maurice hein, sur la page YouTube de TV Magazine qui a une question sur Langue de bois s'abstenir qu'on essaiera de poser un peu plus tard. Mais tout d'abord, on va prendre une question de Fabien qui aimerait savoir, une question assez drôle, qui aimerait savoir ce que vous pensez des textes des chansons d'Aya Nakamura, vous qui avez écrit des chansons pour Johnny Hallyday.
Vous connaissez qui ?
Aya Nakamura, qui est une chanteuse qui est parfois critiquée pour ses textes qui, c'est vrai, sont... Ils ne veulent pas dire grand-chose parfois, en tout cas, c'est ce que ces détracteurs ont tendance à dire. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Vous ne connaissez pas ?
Non. Je suis d'une inculture rare dans ce domaine. Pardon.
C'est une chanteuse qui est effectivement assez adulée par les collégiens. Hein.
Mais tant mieux, bravo. Si les collégiens l'aiment, il y a une raison.
Ouais.
Bon, alors, on ne va pas être intolérant vis-à-vis de quoi que ce soit. Mais comme je ne connais pas et comme j'ignore, je ne peux pas répondre
c'est
à
ça. C'est assez compliqué, c'est vrai, pour avoir écouté quelques chansons, de décrypter ses paroles. Mais il y a un député, d'ailleurs, qui, à un moment donné, a estimé que peut-être elle aurait sa place, notamment à l'Académie française. Elle disait qu'elle faisait évoluer la langue française. Et pour je pense qu'il voulait vous poser cette question.
Ah bon, très bien. Voilà. Il faudra demander aux académiciens, je me demande, je ne suis pas certain qu'ils seront d'accord.
Alors, Philippe Labour, on a eu la chance de visionner en avant-première à votre émission. Est-ce qu'il saute aux yeux, devrais-je dire aux oreilles, pardon, c'est que vous prenez le temps, vous ne coupez pas vos interlocuteurs. Vous êtes un peu anticonformiste, finalement, aujourd'hui, quand on voit les plateaux et l'animation, aujourd'hui, des débats, des talk shows, en effet, voire des joutes verbales sur les chaînes d'information. C'est quoi ? C'est un vrai luxe, finalement, de prendre le temps et d'écouter les gens ?
Ça gueule un peu trop hein, autour des tables de télévision. En tout cas, il m'a semblé, surtout c'est l'heure, hein, dimanche soir à 23h, un peu de calme. Mais surtout, c'est pas l'heure de quoi que ce soit. C'est que moi, j'aime pas l'agressivité à la télévision. Je préfère la bienveillance, l'empathie et l'écoute. Laissez parler les gens. et même observer, quand il y a une réponse, un petit silence avant de relancer. Je faisais ça dans une émission que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelait « Ombre et lumière », qui avait produit Nagui sur France 3 il y a quelques années. Et à un moment donné, où je me taisais. Et donc, quand vous êtes face à quelqu'un et vous ne réagissez pas, ben il va un peu plus loin. Tout d'un coup, il va dire autre chose. Donc, il y a ce jeu-là qui est intéressant. Mais surtout, sous le signe de la bienveillance.
Damien.
Allez, on va prendre une question.
Langue de bois s'abstenir.
Ouais, on va lui poser la question de langue de bois s'abstenir. En fait, il aimerait savoir si vous pensez qu'à chaque fois, vos invités ont respecté le concept de votre émission Langue de bois s'abstenir. Donc, théoriquement, vos invités ne pratiquent pas la langue de bois. Est-ce que ça a été le cas?
Écoutez, encore une fois, soyons modestes, on ne va pas se vanter, mais je crois que oui. Ouais. Je crois que oui. J'essayais de respecter à chaque fois la parité. Deux hommes, deux femmes. Et ensuite, une autre parité, la parité politique. Deux de gauche, deux de droite. Enfin, plus ou moins tendance. Et ils disaient ce qu'ils voulaient. Il n'y a jamais eu une coupe, rien. On enregistrait le mercredi pour diffusion quelque temps plus tard, mais nous n'avons jamais procédé à un seul moment de montage. Et parfois, ils allaient un peu loin. Hein. Bon, d'accord, c'était le jeu. Non, ils ont respecté, et j'ai toujours respecté ça. D'ailleurs, c'est ce titre que j'ai aimé, « Langue de bois s'abstenir », LDBSA, comme on l'appelait. Je ne la regrette pas, parce que je pense qu'il faut savoir tourner les pages.
C'est vous qui avez décidé d'arrêter ?
Moi et la chaîne, hein, on a parlé ensemble, on s'est rendu compte que ça faisait 12 ans que cette émission existait, que puisque la chaîne opérait un tournant vers la culture, tout ça et tout, je pouvais peut-être y contribuer. Et puis, encore une fois, ça correspond à ma propre vie. Hein. Très bien, la politique m'intéresse, ça m'a toujours intéressé. Mais le cinéma, les livres, la musique, ça me passionne.
Qu'est-ce qui fait marcher Philippe Labro après tant d'années
La curiosité, l'énergie, l'envie de comprendre et de connaître, et puis l'amour des autres, je m'intéresse aux autres.
Et vous êtes déjà attelé à votre prochain livre ?
Je travaillote.
J'ai pas encore C'est-à-dire, on vous voit toujours prendre des notes, en effet, vous baladiez toujours avec un petit carnet.
Ah, toujours, oui. Carnet, stylo, crayon même. Je réfléchis. Je n'ai pas encore complètement décidé ce que je voulais faire, donc je ne vais pas vous le dire. Mais ça peut être, vous parliez de mon livre, « J'irai nager dans plus de rivières », qui a eu un bon succès et qui m'a valu des réactions très intéressantes. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils ont envie que j'aille un peu plus loin dans le même format. Et puis mon éditeur, lui, il souhaite beaucoup que je reprenne un peu de fiction, un roman. Alors on va voir. Peut-être trouver un moyen terme. J'ai redécouvert l'autre jour des nouvelles que j'avais écrites il y a 60 ans. J'en ai lu trois, je me suis dit, il y en a une qui peut être réaménageable et intéressante. Pourquoi pas un petit recueil de nouvelles pour respirer, et puis ensuite un autre bouquin. On va voir.
Vous viendrez nous revoir.
Bien évidemment.
Et d'ici là, je vous propose d'ici là de conclure cet entretien par notre petite rubrique qui s'appelle « Sucré-salé ».
Ouais.
Alors évidemment, ça n'a aucun rapport avec Top Chef, hein, parce qu'on vous soumet deux propositions et vous n'en choisissiez qu'une seule, Pascal Praud ou Caroline Roux.
Deux styles différents.
Les deux.
Ah bah non, c'est...
Non,
bah... Choisir, c'est renoncer, je vous rappelle, Philippe Labro.
Pascal.
Pascal. Michel Houellebecq ou Guillaume Musso.
Houellebecq.
Houellebecq.
Donc j'attends avec curiosité et impatience le prochain livre, hein, parce qu'il ne s'est pas trompé, Houellebecq. Hein.
Oui.
Charles Aznavour ou Kenji Girac.
Aznavour, bon. Écoutez, c'est trop facile, votre.
L'Alpagueur ou l'héritier.
Ah, peut-être l'héritier quand même.
Peut-être l'héritier.
Oui, peut-être, oui.
Et enfin, plus personnel, écrivain ou journaliste.
Je ne sais pas.
Bon, il y a toujours de l'écriture, mais.
Oui, écrivain. Mais le journaliste est un écrivain, ok ? Et l'écrivain devient journaliste.
Merci Philippe Labro, hein, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc que ce dimanche, hein, vous lancez le magazine L'Essentiel chez Labro, hein, sur C8 à 23h. Et nous nous retrouvons lundi,
oui,
avec un nouvel invité.
Effectivement, on va laisser passer le week-end et on se retrouve lundi avec un acteur que vous avez adoré dans la saga Brice de Nice et qui revient sur TF1, cette fois-ci dans une fiction absolument poignante, aux côtés de Julie Debona. Il s'agit de Bruno Salomon, que nous recevrons lundi donc, sur ce plateau pour nous parler de cette nouvelle fiction.
Merci encore Philippe Labro. Et donc à dimanche soir, 23h, pour vous voir dans La Petite Lucarne.
Merci beaucoup.
Très bon week-end.
Merci.